Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, un immigrant français, adepte des grands espaces, pose ses valises à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. Il a quand même dû se faire l'oreille.
Quand on me dit que ça prend une blade de jigsaw pour couper une sheet de plywood, c'est un petit peu compliqué à comprendre au tout début.
Le train Hyperloop revient de façon cyclique dans l'actualité. Eh bien là, un consortium international veut en construire un qui va relier Edmonton à Calgary en quelques minutes, un projet qui pourrait être lancé dès 2027.
Ça consiste à avoir des véhicules de la taille d'un wagon de train ou d'un bus qui circulent dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Et donc pour permettre aux véhicules d'atteindre des vitesses similaires à l'avion avec... Aujourd'hui, notre technologie pour atteindre ces vitesses-là.
Une enseignante de l'Est du Canada se voit attribuer l'une des plus hautes distinctions françaises, l'Ordre des Palmes académiques.
On a voulu à la fois célébrer le profil universitaire, mais aussi l'investissement au sein de la communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Il est important d'encourager cette maîtrise du français en reconnaissant celles et ceux qui, sur le terrain au quotidien, y consacrent leur vie. Voilà.
Et on vous parle de nos rencontres radiophoniques des prochaines semaines. Bienvenue à Point de vue. Alors, notre chère ville d'Edmonton caresse un projet Hyperloop de train sous vide. Sa première phase pourrait être lancée dès 2027. S'il se réalise, le trajet entre Edmonton et Calgary pourrait ne prendre que quelques minutes en wagon-train ou avec ce train sous vide, au lieu de prendre 3 heures en voiture, imaginez. Mais c'est pas si farfelu, il y a des gens qui investissent dans ce type de projet de façon cyclique. Cette fois, c'est la compagnie Transpod qui est responsable du projet Hyperloop. La compagnie a même obtenu un financement de 688 millions de dollars canadiens de la part des compagnies Broughton Capital Group et China East Resources Import and Export Company. Cette somme doit servir à la construction de la première phase du projet qui doit être lancé donc en 2027. Le train sous vide peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h. Plusieurs grandes villes s'y intéressent et au premier chef, lui n'est pas une ville, mais celui qui a mis ce projet sur les rails de nouveau, l'ingénieur de SpaceX et Tesla, Elon Musk. Le directeur général et cofondateur de la compagnie Transpod, Sébastien Gendron, s'est livré au micro de Vincent Savard en Alberta.
Mais en fait, on voit en fait un changement, d'attitude de certaines institutions financières à vouloir innover ou en tout cas investir sur des projets innovants comme celui porté par Transpod. Et donc Broughton Capital fournit l'ensemble du financement en provenance d'Angleterre. C'est une firme financière anglaise. Sayeco en fait fournit une garantie financière sur une partie du montant. Donc Sayeco qui est une société d'import-export chinoise et vient fournir un backstop en fait sur les fonds qui sont fournis par Broughton Capital. Et on a structuré le projet également de telle façon où le risque est géré avec plusieurs niveaux d'investissement, etc. Donc ça n'a pas été facile, mais on est très content d'avoir pu sécuriser ce financement avec eux.
Et j'imagine que cet argent sert seulement de couvrir une partie des coûts.
Exactement, cet argent a pour objectif de construire juste la première phase du projet. Qui consiste en fait à la connexion de l'aéroport de Edmonton. On va se servir de ce segment-là pour certifier la technologie. Et une fois que c'est certifié, ensuite, on continue jusqu'à Calgary. Donc en fait, Broughton Capital et Sayeco ne sont pas juste intéressés par cette connexion aéroportuaire, mais vraiment par la totalité du corridor. En fait, ils achètent un petit peu ils achètent leur siège aujourd'hui pour pouvoir financer la totalité du projet. Et en dollars canadiens, on parle d'un projet à 22 milliards.
Ensuite, Monsieur Sébastien Gendron, vous voulez faire les premiers tests du trajet d'essai et entamer la construction de la ligne Calgary-Edmonton pour 2027. Croyez-vous que ce soit un objectif qui est réalisable?
Ben, à date aujourd'hui, des retours qu'on a eu des entreprises de construction et de notre développement, c'est faisable. Maintenant, je veux pas faire de fausses promesses. Hein, on connaît pas tout. On va sûrement avoir des problèmes. Là, sur ce premier segment, notre objectif, c'est de commencer la construction à l'été 2023. On a eu des premiers retours nous disant il va falloir entre 18 et 24 mois pour construire ce premier segment. Donc là, on est sur 2025. Ensuite, deux ans d'essai, 2025-2027. Une certification potentielle, donc 2027. Et après on peut continuer sur Calgary.
J'imagine que vous avez été en contact avec plusieurs personnes de Calgary ainsi que d'Edmonton.
Écoutez, pour le moment, on a l'ensemble des institutions, que ce soit la ville, que ce soit même Edmonton Global. On travaille aussi avec The Building Trades of Alberta, le ministère des Transports, Alberta Transportation. Il y a aussi, on a commencé à contacter quelques Premières Nations. Et je dois dire que tout le monde est plutôt bienveillant sur ce projet-là. Je suis plutôt agréablement surpris. Les étoiles semblent alignées.
Vous avez un diplôme en ingénierie aérospatiale. Vous avez travaillé avec des compagnies aériennes comme Bombardier. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de l'Hyperloop si l'on compare avec l'avion en termes environnementaux?
L'avantage, en fait, énorme, c'est qu'on a un système qui est 100% électrique. Sur l'infrastructure, là, entre Calgary et Edmonton, on va pouvoir construire 300 km de panneaux solaires et générer aussi, voilà, de l'électricité à partir d'énergies renouvelables.
J'ai entendu dire que c'était par contre plus énergivore. Est-ce que c'est vrai?
Non, sur la consommation énergétique, aujourd'hui, on est sur la même consommation qu'un train à grande vitesse.
Est-ce qu'il y a des risques à la santé qui ont été évalués par rapport à ça?
On n'est pas en train de concevoir un canon électromagnétique. Donc, les accélérations et les décélérations de ce système-là sont similaires à celles du métro, quoi, ou du light rail à Edmonton. Mm-hmm. Et donc on est, voilà, il nous faut plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres pour atteindre la vitesse maximum. Et une fois qu'on est à une vitesse de croisière, c'est un peu la même sensation que quand on est dans un avion. Donc ce sera la même expérience passager. Après, effectivement, on est dans un environnement à faible pression dans le tube, mais on a aussi cet avantage d'être au sol. Donc s'il y a un accident, on peut repressuriser le tube en fait en 15 secondes. C'est très très rapide, c'est beaucoup plus rapide que dans un avion. Parce qu'un avion, si vous avez un accident de dépressurisation et que vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, le temps de redescendre, souvent ça se termine malheureusement avec un accident. Nous, de notre côté, voilà, on peut repressuriser beaucoup plus rapidement et permettre aux gens donc du coup de respirer dans le tube s'il faut évacuer et ensuite d'évacuer le tube.
Merci beaucoup, Sébastien Gendron, directeur général et cofondateur de Transpod.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Judy est l'une de nos journalistes dans l'est du pays. Judy, avec qui on s'entretiendra au cours des prochaines semaines. Elle qui va nous quitter bientôt, malheureusement pour nous, et qui va aussi faire de la peine au réseau des quatre radios avec lesquelles nous travaillons en Atlantique, comme avec Sébastien Beltran, posté à Moncton, et qui est arrivé, lui, au pays. Lui, il ne nous quitte pas. Il vient d'arriver. Il est arrivé au pays il y a quelques mois à peine en direction de France avec toute sa famille. Imaginez quelle transition. Lui qui est passé du métier de vidéojournaliste à journaliste radio. Il travaille avec nous depuis quelques mois seulement. On fera une pause en sa compagnie. On va aussi passer quelques minutes avec notre collaborateur de longue date, Thomas Etier, qui est avec l'initiative de journalisme local depuis quelques temps et qui passe à autre chose, à une autre étape de sa carrière professionnelle, là-bas, tout en haut du pays. Thomas, qui est dans les territoires du Nord-Ouest et qui y reste pour travailler pour le journal L'Aquilon, mais qui a de nombreux points d'entrée sur l'actualité dans ces territoires, il va nous parler de ce qu'il vit, fait, voit et entend depuis toutes ces années passées comme francophone en situation minoritaire dans les territoires du Nord-Ouest. Il sera donc pour un court moment notre guide franco-actualité, culture et tourisme. Thomas, qui a de nombreux intérêts, lui qui a étudié non seulement en journalisme, mais aussi en marketing et en psychosociologie. Et puis, notre très productive journaliste Hélène Lequitte va aussi faire une transition professionnelle. Vous savez que les équipes radio de l'Initiative de journalisme local ont la bougeotte comme dans tous les milieux professionnels ces temps-ci, il semble. On ne leur en veut pas, mais on leur met le grappin dessus avant qu'ils ne s'en aillent. Hélène Lequitte, qui est en Alberta, à Edmonton, elle couvre aussi la région de Rivière-la-Paix. On fera le bilan de l'année qu'elle a passée avec nous et dans cette communauté albertaine. Plus de 10 ans d'expérience en journalisme, c'est ce qu'elle a sous la cravate. Hélène Lequitte a aussi collaboré avec ICI Radio-Canada à Vancouver et le quotidien Le Devoir. Et puis, on fera aussi un petit tour en bord de mer. On va se gâter et rêver un peu. Avec Pénélope Clermont, qui a choisi de prendre racine dans le minuscule village de Tête-à-la-Baleine sur la basse-côte nord au Québec. Comment c'est faire du journalisme dans un village d'à peine 150 habitants? Ce sera l'une des questions qu'on va lui poser. Un rendez-vous avec l'actualité locale, mais aussi avec un certain art de vivre qui va nous permettre de voir comment est-ce que nos journalistes s'intègrent à des communautés aux profils très différents. C'est donc un rendez-vous. Parlant de gens qui ont des fourmis dans les jambes, il y a Stéphane Sogne, qui est né en France, en fait au cœur des Alpes françaises. Il a beaucoup voyagé, il a habité évidemment en France puisqu'il y est né, mais a aussi travaillé en Suisse avant de venir au Canada. Sa migration au Canada semblait tracée d'avance. Depuis tout jeune, il répétait à sa mère qu'il aimerait aller vivre à Sydney en Australie. Drôle d'idée, non? Eh bien, il a atterri non loin de la même ville, mais dans une province canadienne. Et puis les années passent, ça fait déjà 12 ans qu'il est à Chéticamp, Nouvelle-Écosse. Il est d'abord passé par Montréal, comme tant d'autres Français, et c'est à Rimouski, au Québec, qu'on lui a parlé de Chéticamp et des Acadiens. Il n'en fallait pas plus pour le séduire. 12 ans après son arrivée à Chéticamp, Stéphane Sogne ne regrette en rien sa décision, n'a jamais regardé derrière. Il adore la cuisine acadienne, la nature, la mer, l'homard et la voile, ça tombe bien. Il travaille actuellement comme agent de développement scolaire communautaire à l'école NDA de Chéticamp. Il était au micro de notre journaliste Daniel Aucoin pour parler de son intégration à la communauté acadienne de Chéticamp et de son arrivée, bien sûr, en Nouvelle-Écosse.
Dans les choses qui m'ont beaucoup surpris ou qui ont été un peu plus dures à s'adapter, il y avait définitivement la langue qui était quelque chose, parce que c'est ça, le français acadien est assez différent du français de France, puis même par région, parce qu'on parle l'acadien, mais l'acadien de la région de Clare ou l'acadien de la région de Chéticamp, la langue était un peu plus difficile. Puis il y a l'anglais qui est omniprésent, c'est-à-dire que tout le monde qui parle français est de toute manière bilingue. Ça fait que ça passe du français à l'anglais instantanément. Donc ça, c'est un peu plus dur. Et puis ici, le monde a vraiment comme le cœur sur la main, a pas la même vision qu'en France. En France, quand je dis je veux créer une entreprise, la plupart des gens disent « Ouh là là, mais t'es fou, c'est beaucoup de soucis, ça va être très compliqué, etc. » Ici, la première chose que le monde m'a dit, c'est « Oh, c'est génial, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire ?» Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une autre vue. C'est un peu le côté rêve américain, je trouve. Tout est possible et tout le monde veut t'aider à faire quelque chose.
Ouais. On sait que la région de Chéticamp, on est reconnu pour nos gros vents du sud-est. Ça a été quoi ta première expérience de nos fameux suèves?
Alors, quand je suis arrivé ici, au début, je travaillais un petit peu avec Heather Davis, qui avait fait une entreprise d'éoliennes. On essayait des éoliennes. Et quand j'ai entendu parler des grands vents, ma première réaction, c'était de dire « Ah oui, mais moi, je connais le vent, j'ai fait de la voile, j'ai vu les gros vents forts dans le sud de la France, le Mistral, la Tramontane, etc. » Ça, c'était avant de le voir. Et la première fois que j'ai vu un gros suette à passer 170-180 km/h, là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit « Mais la maison bouge, c'est pas normal. » Et elle m'a dit « La maison est debout depuis 100 ans, elle va pas s'en aller nulle part. » Mais c'est vraiment... J'adore le vent. Et vraiment, le phénomène des suettes me passionne. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est la force de la nature dans toute sa splendeur. Là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Est-ce que l'hiver à Chéticamp, c'est différent de l'hiver en France?
Alors moi, je viens d'une région de montagne. Ça fait que j'ai grandi dans le froid et la neige. Ça fait que j'ai pas eu trop de mal à m'adapter au froid et à la neige. Par contre, c'est plus l'isolement. C'est-à-dire qu'ici, tout est loin. Et dès qu'il y a de la neige ou des tempêtes, c'est loin assez que tout est inaccessible. C'est-à-dire que s'il y a une journée de tempête, on ne se rend pas à Sydney ou on ne se rend pas à Halifax.
Comment tu trouves la cuisine acadienne chez nous?
J'adore le. Il y a des plats que j'adore vraiment. Je suis devenu très acadianisé. Par exemple, je mets de la mélasse sur mon pâté à la viande. Ça, j'ai entendu que c'était plus aux moines qui faisaient ça. Mais non, j'adore la cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine et j'adore la gastronomie acadienne. Bien sûr, le homard aussi. On a accès à des produits fantastiques. On a accès à du poisson de première qualité. On a accès. Ça fait que ouais, j'aime beaucoup, je me régale beaucoup ici.
Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter aux mots acadiens?
Pas tellement, parce que je suis assez... je pense que ça vient du fait que ma mère était d'origine autrichienne, mon père d'origine italienne. J'ai toujours été assez flexible, j'ai habité en Suisse. Ça fait que j'ai l'habitude d'avoir des mots différents. Mais c'est vrai qu'au début, il y a certaines phrases avec de l'anglais... qui sont un peu hardcore. Là. Quand on me dit ça prend une blade de jigsaw pour couper une sheet de plywood, c'est un petit peu compliqué à comprendre au tout début.
Ça a été quoi le plus difficile à s'adapter?
Ici, on est des francophones, mais vraiment des francophones d'Amérique du Nord, avec une culture beaucoup plus anglo-saxonne et américaine que ce qui se passe au Québec. Donc le Québec est plus français dans le côté État français. Et puis ici, la langue est française, mais la culture est beaucoup plus anglo-saxonne.
Qu'est-ce qui te manque le plus?
La gastronomie, la culture de la gastronomie, c'est-à-dire le côté de se vraiment faire la cuisine. Pas seulement faire à manger pour se nourrir vite, vite, mais vraiment le fait d'apprécier les ingrédients qu'on met dedans, le côté passer du temps à table, apprécier la nourriture, manger moins, mais manger vraiment de très bonne qualité ou mieux, etc.
Tu regrettes pas ta décision de venir en Acadie?
Non, pas du tout, non. Il y a beaucoup d'amis qui me demandent si je pense retourner en Europe un jour. Et je crois pas, parce qu'il y a quand même beaucoup plus. C'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent, ma famille, mes amis, tout ça. Oui, j'ai trouvé beaucoup plus de choses que j'aime ici. Le côté aussi, le côté liberté, le côté on est au Canada, on a de la place, on a accès, on vit littéralement dans la nature, on voit des orignaux traverser notre jardin. Ça fait que, j'aime vraiment beaucoup trop ça ici pour retourner en Europe. Après, je ne dis pas qu'un jour, je n'irai pas faire la même chose dans un autre pays, peut-être découvrir une autre culture, un autre pays, peut-être dans un endroit plus chaud éventuellement.
Les montagnes du Cap-Breton, comparées aux montagnes en France, c'est quoi?
Ah, ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai grandi dans une station de ski qui s'appelle Val Thorens, dans les Alpes, qui est le plus grand domaine skiable du monde. Ça fait qu'on a à peu près 3000 km de pistes de ski différents. C'est absolument gigantesque. Ça va d'une vallée à une autre vallée à une autre vallée. Et les montagnes montent jusqu'à 3800 mètres, là où j'ai grandi, et le Mont Blanc, qui est à 4800 mètres d'altitude et à environ une heure de chez moi. Alors qu'ici, la butte aux Échoureaux, à peu près 300 mètres. Donc on n'est pas tout à fait dans le même esprit de montagne. Par contre, le climat est le même, le climat est très très proche. Et j'aime beaucoup Moi, j'ai toujours aimé la neige et puis les activités d'hiver. Donc ici, je retrouve vraiment ça. Et avec en plus le côté mer, c'est ça. Moi, j'aime la mer et j'aime la montagne. Et ici, j'ai les deux, c'est ça qui est fantastique. Je fais de la voile, j'ai fait de la voile pendant très très longtemps. Je suis moniteur de voile, j'ai été entraîneur d'équipe sportive en voile. J'ai fait des compétitions au niveau pré-olympique en France. Alors quand je suis arrivé ici, en habitant finalement sur la mer, j'étais assez content de pouvoir m'acheter un bateau. Donc j'ai acheté un voilier. Et à un moment donné, le voilier était un peu trop petit. Je l'ai acheté avec mon ami Scott au coin. Et on a décidé d'acheter un voilier un peu plus grand. Donc, on a acheté un autre voilier un peu plus grand avec Robert Devaux. Et là, j'ai acheté encore un troisième petit voilier. Donc maintenant, j'ai beaucoup de voiliers et il faudrait que je me débarrasse de quelques voiliers. Mais ouais, je fais beaucoup de voiles et j'adore ça. On va aux îles de la Madeleine, qui est aussi un petit paradis. Là. C'est absolument fantastique.
Alors, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très, très intéressant et on va te souhaiter comme ça un bon séjour parmi nous. Ça fait quand même plusieurs années que tu es ici.
Oui, ça va faire la 12e année. Là, ouais. Merci beaucoup, Daniel.
Merci.
L'enseignante canadienne Sophie Beaulé a eu toute une surprise récemment. Elle a été faite chevalière de l'Ordre des Palmes académiques. Oui, l'Ordre des Palmes académiques est le plus ancien ordre honorifique civil de France et l'un des plus prestigieux. Il vise à reconnaître les membres éminents de la communauté éducative qui contribuent au rayonnement de la langue française et à l'expansion de la culture française dans le monde. Le consul général de France à Moncton, Johan Schitterer, lui a remis son insigne en main propre lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Université St. Mary's d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'enseignante a été faite chevalier de l'Ordre des Palmes, en fait, par décret du premier ministre français lui-même, pour reconnaître sa contribution et pour son investissement dans l'éducation en français. Le consul général de France à Moncton a rendu hommage au parcours exemplaire de Sophie Beaulé, un témoignage recueilli par notre journaliste Sébastien Beltran, qui nous fait d'abord entendre les commentaires du consul général de France à Moncton.
Alors, les palmes académiques, c'est vraiment l'une des plus anciennes et plus prestigieuses décorations accordées officiellement par la France dans le monde. Elles ont été créées par décret impérial de 1808, donc c'était une idée de l'empereur Napoléon. Ensuite, elles ont été institutionnalisées en France à partir de 1955. L'Ordre des Palmes académiques a été créé cette année-là et elle vise à distinguer, honorer les mérites des membres actifs de la communauté éducative, les personnalités éminentes qui contribuent à l'expansion de la langue, de la culture académique française, en France historiquement bien entendu au départ, mais aussi maintenant dans le monde. Les palmes académiques sont remises à celles et ceux qui font la promotion de la langue et de la culture française dans les universités, parfois même les écoles, puisque ces palmes académiques qui initialement étaient accordées au corps universitaire, maintenant ont été élargies à l'ensemble de la communauté académique.
L'Ordre des Palmes académiques a pour vocation d'encourager les personnes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel ou à l'éducation. Le parcours exemplaire de Mme Beaulé illustre parfaitement cet engagement dans la durée au profit de la communauté. Johan Schitterer revient sur cet engagement d'une vie.
Sophie Beaulé a été distinguée aujourd'hui parce que c'est une diplômée de l'université McGill, donc elle a un doctorat en littérature française et depuis l'obtention de son doctorat, elle n'a eu de cesse de promouvoir la langue française sous toutes ses formes dans les différents établissements qu'elle a fréquentés. Ici, en Nouvelle-Écosse, elle est depuis 2000 professeure de français à l'université St. Mary's University, si vous permettez l'anglicisme. Et dans le cadre de ses fonctions, bien entendu, elle a contribué à l'enseignement, la promotion de la langue française, de ses cultures, y compris, je l'ai appris en préparant mon discours d'aujourd'hui, dans le domaine de la science-fiction, qui est éminemment intéressant. Et là, en particulier, la science-fiction francophone canadienne. C'est un domaine exceptionnellement intéressant, on a eu l'occasion d'échanger. Alors par ailleurs, elle a, au-delà de ses fonctions d'enseignant, vous allez me dire, il y a beaucoup d'enseignants dans le monde qui s'expriment en langue française, elle a eu aussi des fonctions extrêmement importantes pour la diffusion de la langue et de la culture française. Je dis diffusion plutôt que protection, soyons positifs. Elle a eu des fonctions éminentes au sein de l'Alliance française d'Halifax, qui était une très vieille maison qui a plus de 115 ans maintenant, et dont justement l'objectif est la promotion de la langue et de la culture française. Elle a été vice-présidente d'ailleurs de cette Alliance française entre 2016 et 2018. Elle a aussi eu, à l'occasion de son passage à l'Alliance française, eh bien, toute une série d'initiatives, notamment d'activités francophones à destination des étudiants. Il est important que les étudiants, notamment anglophones, bien sûr, soient sensibilisés à la langue française et envie de l'apprendre pour mieux la diffuser. Et par ailleurs, elle a notamment animé un club de lecture, elle a organisé le Salon du Livre de Dartmouth, que vous connaissez peut-être, elle a sélectionné pour cela des auteurs invités et organisé une journée de Français pour l'avenir, qui sont particulièrement, ces événements, appréciés par la communauté francophone locale. Donc, pour toutes ces raisons, on a voulu à la fois célébrer le profil universitaire, mais aussi l'investissement au sein de la communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Comme vous le disiez, c'est un Français ici qui est minoritaire. La Nouvelle-Écosse, l'Acadie historique, a été fondée ici en 1603-1604. Il y a eu une déperdition de cette langue française, mais elle persiste dans certaines communautés. Et pour la France, l'ambassade, le consulat général que je représente ici dans les quatre provinces atlantiques, est important d'encourager cette maîtrise du français en reconnaissant celles et ceux qui, sur le terrain au quotidien, y consacrent leur vie. Voilà.
Madame Sophie Bollet porte un noble visage. Ses yeux étudient, guettent, méditent. Et lorsqu'elle sourit, ils s'éclairent. La voix douce module les mots avec distinction à travers une majestueuse bienveillance. Lorsqu'on lui demande comment elle se sent après avoir obtenu les honneurs, voici sa réponse.
Oh mon Dieu, c'est un grand honneur. Je n'aurais jamais pensé recevoir, être nommée chevalier dans l'ordre des palmes académiques, j'avoue. Jamais je n'aurais pensé à cela. Alors c'est vraiment un très grand honneur. C'est ça. Les mots me manquent. C'est un très grand honneur. Je suis très émue.
Émue, Sophie raconte sa passion pour la science-fiction, son engagement auprès de l'Alliance française et évoque son amour de la langue française dans un environnement linguistique minoritaire. Avant de quitter l'entrevue et de répondre aux sollicitations des invités, dont celle de Colton Leblanc, ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Sophie nous confie vouloir s'impliquer de nouveau dans le milieu associatif dont elle a dû s'éloigner momentanément par manque de temps. Au regard de son expérience, nul doute que la communauté francophone pourra compter sur l'énergie de cette femme discrète mais ô combien efficace pour instruire une génération souvent en quête d'identité.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous déjà à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est aussi branché sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI. Puis écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes balado préférées, mais aussi sur notre site Internet, bien évidemment. Et on remercie nos journalistes Daniel Aucoin, Sébastien Beltrand et Vincent Savard, et bien sûr leurs invités. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique et à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI.
cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, une autre figure de proue du paysage musical acadien disparaît. Pastel Leblanc, chanteuse instrumentiste du groupe musical Vichten, meurt à l'âge de 42 ans. Pastel Leblanc était une grande ambassadrice de la culture acadienne.
Quand on entend Pastel jouer, on sait que c'est Pastel. Elle a son style, elle a sa voix. Même quand elle faisait des arrangements, on savait que c'était un arrangement de Pastel. C'était vif, joyeux. C'était aussi profond, c'était vraiment quelqu'un qui était respecté à travers le monde.
Au Québec, une nouvelle ligne de transmission hydroélectrique longue de 75 km est mise en service entre La Romaine et Pointe-Paran. Ceci permet d'économiser 4 millions de litres de diesel par année.
On a construit ça avec des emprises qui ont été déboisées suffisamment larges. On a construit ça suffisamment haut. On a mis des équipements pour une résistance accrue au verglas.
Et on s'entretient avec notre reporter Judy Desalliers, qui est à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Elle nous parle de la communauté qui l'a accueillie et de sa migration vers cette province canadienne.
J'ai découvert une province qui est gentille. C'est comme ça que je peux décrire le Nouveau-Brunswick. Les gens sont gentils, sont accueillants.
Bienvenue à Point de vue. On effectue notre premier arrêt au Québec, où une nouvelle ligne de raccordement et de transport d'Hydro-Québec relie maintenant les communautés de Pointe-Paran et de La Romaine. Ça, c'est en Basse-Côte-Nord, à plus d'un jour de route et de bateau de Montréal. Mais ce qui peut sembler être une bonne nouvelle pour les citoyens de la région les inquiète, en fait. Eux qui, depuis la mise en service partielle de la ligne, ont été exposés à plusieurs coupures de courant et se demandent maintenant si le problème va se résorber. Pour vous situer, La Romaine, c'est tout en haut du Québec. Vous le devinez, il fait froid à l'hiver et la région est très reculée. Quand on demande de l'aide, elle prend parfois du temps à arriver. La Romaine a son port, mais il n'est pas toujours accessible non plus. À la fin du mois de mars, la Société d'État Hydro-Québec a mis en service la nouvelle ligne de transport reliant donc Pointe-Paran aux collectivités d'Ounamène-Chipu et de La Romaine, dont l'alimentation en électricité dépendait jusque-là entièrement d'une centrale thermique au diesel. Les habitants de La Romaine s'inquiètent de la fiabilité de cette nouvelle ligne et Hydro-Québec tente en même temps de les rassurer. Pénélope Clermont en parle avec Danielle Collard, adjointe à la direction de la municipalité de la Côte-Nord du Golfe du Saint-Laurent et citoyenne de La Romaine, de même qu'avec Stéphane Dumaresque, porte-parole d'Hydro-Québec.
Bien, c'est perçu positivement parce que, je veux dire, ça innove. Puis, je veux dire, on n'aura plus ce problème d'approvisionnement en hydrocarbures à cause de la météo et puis tout ça, parce qu'on a quand même un port difficile à atteindre en cas de mauvais temps. Puis les bateaux en hydrocarbures, ben, je veux dire, ils n'ont pas de risque à prendre. Donc, il faut qu'il y ait une fenêtre assez longue parce que le déchargement de La Romaine, ça peut prendre au-dessus de 24 heures là, en ligne. Là. Ça fait qu'on aura positivement, on voit ça à cause de ce problème-là, parce qu'il y a 2 ans, on a failli plus avoir d'électricité pendant le temps des fêtes. Il y avait même fait des projections là, de secteurs qui allaient couper un par un là, tranquillement pour économiser le fuel. Par contre, moi, j'ai toujours habité à La Romaine, puis des pannes de courant, on n'a pas ça souvent, là. T'sais, nous autres, on peut expérimenter une panne de courant de 15 minutes en cas de grosse tempête, puis encore, là, tu sais, c'est plutôt la surcharge des moteurs qui faisait qu'on perdait le courant. Ben, avec la nouvelle ligne cette année, juste cet hiver, je pense qu'on a perdu le courant 6 fois.
OK, quand même.
Des périodes assez longues, là. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une partie du village qui est déjà alimentée avec la nouvelle ligne. C'est-à-dire, les villages autochtones, ils sont déjà alimentés avec la ligne qui arrive de Natashquan. l'ancienne réserve, puis le village des Blancs, nous autres, on est encore sur la centrale au diesel. Ça fait que quand il y avait des pannes sur la ligne, bien, il y a une partie de la réserve qui perdait le courant. Ça fait que là, il fallait que la centrale les prenne en charge parce qu'ils ont gardé cette possibilité-là en attendant pendant le rodage de la ligne. Mais pendant la prise en charge, des fois, il y avait des pépins parce que la ligne n'est pas encore... elle n'a pas encore tout le courant dessus pour alimenter le village en entier non plus. Il y a des fuses qui sautaient, là, des breakers, je ne sais pas trop comment eux autres ils vont appeler ça, là, les gars d'hydro. Mais c'est ça. Fait qu'on on a eu des on a quand même eu des grosses pannes.
C'était donc Danielle Collard, adjointe à la direction à la municipalité de la côte nord du golfe du Saint-Laurent et citoyenne de la Romaine, qui nous expliquait la perception de sa communauté sur la nouvelle ligne d'Hydro-Québec, de même que des inquiétudes que les citoyens ont par rapport à la fiabilité de celle-ci. Je me suis donc tournée vers Stéphane Dumaresque, porte-parole d'Hydro-Québec, pour voir si ses craintes sont fondées.
Notre ligne a été construite justement en prévision de ça. C'est-à-dire qu'on a fait une ligne, une structure ou des structures qui sont plus grosses que ce qu'on fait normalement pour un voltage similaire. Pourquoi? Parce que justement, on est dans un milieu qui est plus isolé. La route va arriver dans quelques années. On dégage très large. Il faut savoir que la majorité des bris qu'on a sur nos réseaux électriques, ça vient de la végétation qui va briser avec les vents, avec les tempêtes. Donc, on a construit ça avec des emprises qui ont été déboisées suffisamment larges. On a construit ça suffisamment haut. On a mis des équipements pour une résistance accrue au verglas. Évidemment, là, les gens de la Romaine ont eu des pannes cette année. Oui. Il y a eu une panne qui a eu lieu à la centrale, qui a pris un certain temps pour que, justement, on puisse réparer le tout. Cette année, là, c'est vraiment les tempêtes de neige, de verglas, les vents qui ont causé des problèmes. On a des travaux en maîtrise de végétation qui sont prévus dans ce secteur-là cette année et l'année prochaine.
Donc, les citoyens peuvent espérer pas revivre là, le même type d'expérience dans les années, les hivers à venir.
Oui, en effet. Okay. On va faire des travaux qui... Moi, je peux vous dire, par expérience, ont un gros impact. Je l'ai expérimenté moi-même chez moi, je peux vous dire ça.
En complément de l'extrait, M. Dumaresque m'expliquait que 3 centrales thermiques alimentaient les villages de la Basse-Côte-Nord avant 1995. Une de ces centrales a été démantelée, alors que 2 continuent d'être entretenues afin de pallier à un bris prolongé de la ligne d'alimentation. En ce qui a trait à la centrale de la Romaine, on prévoit la maintenir en service durant 1 an, puis la démanteler ensuite. On parle bien sûr de la centrale thermique. Le contexte ne nécessite pas qu'on la maintienne en service, au dire de M. Dumaresque. Enfin, pour revenir sur la nouvelle ligne d'Unamenchipu et de la Romaine, je me suis permis une dernière question auprès du porte-parole d'Hydro-Québec. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour entreprendre ces travaux alors que les autres communautés sont liées à une centrale hydraulique depuis plus de 25 ans? Voici sa réponse.
Il y a les coûts associés à la construction de la ligne qui ont fait qu'on a révisé les scénarios à quelques reprises pour s'assurer qu'on mette quelque chose qui est robuste. Lorsqu'on a commencé les travaux, bien oui, là, la centrale arrivait en fin de durée de vie. Donc, on l'a lancé à ce moment-là, mais il y a eu plusieurs analyses sur plusieurs années, plusieurs scénarios de type de ligne qui ont été évalués également. Vous savez, il y a des rivières qui sont très larges dans le secteur entre Kegaska et entre Pointe-Parent et la Romaine. Ça, c'est des portées qui demandent beaucoup de travail d'ingénierie. Il faut qu'on calcule comme il faut. L'accès en été, justement, dans ces zones-là, traverser ces rivières-là, on ne pouvait pas y aller, il fallait le faire en hiver.
Oui.
Vous voyez, l'hiver dernier, on a eu un hiver tellement doux que le pont de glace, on était rendu en février, puis on se demandait si on allait pouvoir faire les travaux. Mais l'hiver dernier, c'était complexe. La COVID est venue nuire aussi. On ne pouvait pas... À un moment donné, le chantier a dû être arrêté. Quand on l'a repris, il fallait mettre en place des mesures assez complexes et il fallait aussi nos mesures puissent ne pas mettre trop mal la résilience des communautés parce qu'il y avait beaucoup de stress dans les communautés. Vous savez, on amenait du monde de l'extérieur. Ouais. C'est pas tout le temps du monde de la place qui pouvait travailler sur le chantier. Il fallait amener du monde de l'extérieur qui venait de zones rouges. Donc, il fallait pouvoir isoler tout ce beau monde-là. Donc, ça fait partie de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer sur ce projet-là.
La nouvelle ligne permettra d'économiser près de 4 millions de litres de diesel par année et l'équivalent d'environ 10 000 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à environ 2 500 voitures à essence sur nos routes, explique Hydro-Québec. L'appellation La Romaine dérive du vocable Innu Oloman ou Oroman, signifiant ocre rouge, ce qui fait allusion à la couleur rougeâtre des eaux de ruisselle. ruissellement du printemps. Plusieurs villages de la Basse-Côte-Nord ont depuis 1995 été connectés à une centrale hydroélectrique plutôt que thermique. Les communautés de La Romaine et Unamen-Chipou demeuraient seules bas côtières à être encore alimentées par une centrale thermique au diesel. Tout le monde devrait être connecté au même réseau dès l'été 2022. Rappelons qu'Hydro-Québec exploite une vingtaine de centrales thermiques à travers la province afin d'alimenter en électricité les collectivités trop éloignées pour être accordées au réseau principal. Si ces centrales représentent moins de 1 % de la production d'Hydro-Québec, elles sont responsables d'environ 43 % de ses émissions de gaz à effet de serre. 80 % du réseau thermique devrait être converti d'ici 2030, explique Hydro-Québec. La communauté artistique acadienne pleure le décès de Pastel Leblanc, chanteuse et instrumentiste du groupe musical Vichten. L'artiste originaire d'Évangéline à l'Île-du-Prince-Édouard est récemment décédé à l'âge de 42 ans seulement. Vichten, c'est un trio de multi-instrumentistes constitué de Pastel et Emmanuel Leblanc de l'Île-du-Prince-Édouard et de Pascal Lemius des Îles-de-la-Madeleine. En puisant dans leur tradition, ces trois musiciens ont créé une signature musicale unique et qui leur est propre. Pastel Leblanc était aussi une compositrice prolifique et une artiste solo accomplie. La musicienne Christine Mélenchon du Nouveau-Brunswick avait beaucoup d'estime pour son ami Pastel. Elle est à Chéticamp au micro de notre reporter Daniel Aucoin.
Christine Mélenchon, bonjour.
Bonjour.
J'imagine bien que toi-même, en tant que musicienne, tu as été beaucoup touchée par l'annonce du décès?
Oui, parce que Pastel, c'était pas juste une collègue, c'est aussi une grande amie à moi. Pastel, c'était quelqu'un qui... en tant que musicienne, c'est sûr qu'elle a poussé un peu les limites de l'accordéon, du style traditionnel. Puis elle a mis vraiment sa propre touche sur le style. Puis comme amie, c'était quelqu'un qui était tellement bienveillant, tellement lumineuse. Elle avait toujours la bonne chose à dire quand ce que vraiment à l'écoute des autres.
Elle a été une source d'inspiration pour toi? Et...
Absolument, parce que Pastel, quand on parlait de musique, c'était juste à m'encourager à ressentir la musique de différentes façons, puis de juste aller avec comment moi je me sens par rapport à la musique traditionnelle, parce que ça n'a pas besoin d'être ultra traditionnel de faire la musique traîne, parce que comme c'est juste comment toi tu sens la musique, puis tu peux prendre des influences de partout, puis pour moi c'était comme une belle inspiration de juste être toi-même quand tu joues.
Vichten s'est fait connaître comme ambassadeur de la culture francophone dans le monde entier. Alors Pastel Leblanc et les deux autres membres du groupe puisaient dans leurs traditions et dans les chansons patrimoniales acadiennes. On peut dire que Pastel Leblanc a toujours, comme ça, rendu hommage à son héritage acadien?
Absolument. Puis les filles, puis Pascal aimait tellement l'île du Prince-Édouard, puis les coutumes acadiennes, comme ça se voyait, ça se sentait. Pour eux, c'était vraiment important de représenter l'Acadie, de représenter qui eux ils étaient, de représenter leur Acadie puis leur vision de l'Acadie. Parce que pour eux, la musique traditionnelle, c'était pas quelque chose qui était comme figé dans le passé non plus. C'était quelque chose qui existait longtemps passé, qui existe encore aujourd'hui, puis qui peut être vraiment moderne par rapport à comme qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça peut être pop, ça peut être folk, ça peut être différentes choses. Puis c'était vraiment de transformer les mélodies qu'on connaît, puis d'en faire quelque chose de nouveau.
On sait que Vichten a donné des spectacles partout au Canada, en Europe, aux États-Unis. Pastel Leblanc, c'était un artiste qui a laissé sa marque, pas seulement en Acadie, mais partout à travers le monde.
En tant qu'accordéoniste, elle a eu le respect de tous les accordéonistes traditionnels partout dans le monde, à se mesurer avec eux, mais elle avait sa touche à elle, tu sais, parce que quand on entend Pastel jouer, on sait que c'est Pastel. Elle a son style, elle a sa voix, elle a trouvé le petit X-factor quand ce qu'elle jouait, puis quand ce qu'elle même quand on faisait des arrangements, on savait que c'était un arrangement pastel parce que c'était ça y ressemblait, c'était vif, c'était joyeux, c'était aussi profond. Il y avait toutes ces qualités-là dans la façon qu'elle jouait, dans la façon qu'elle faisait des arrangements, puis dans la façon qu'elle était comme personne. Fait que c'était vraiment quelqu'un qui était respecté à travers le monde, hein, dans toute la communauté celtique, puis aussi dans la communauté musicale en grand, là. La musique de Wichten a certainement aidé à faire shiner la musique acadienne en général, parce qu'ils étaient un petit peu des ambassadeurs de l'Acadie. Puis, je suis certaine que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas c'était quoi l'Acadie, puis ils ne savaient pas qu'il y avait des francophones dans l'Est du Canada. Puis, juste avoir des ambassadeurs aussi positif puis aussi respectueux, respecté que Wichten. Ça fait en sorte que l'Acadie a pu rayonner à plusieurs égards partout dans le monde, parce que c'était vraiment, en tout cas parmi les meilleurs pour nous représenter en tant que peuple. Puis Pastel était certainement à la hauteur de ça.
On sait que Pastel Leblanc et Wichten ont joué au Cabretan à plusieurs reprises pour le festival Celtic Colors. Toi-même, tu es venu à Celtic Colors. Alors, je pense que le Cabretan avait une place spéciale dans le cœur de Pastel Leblanc.
Je crois que c'est à cause de Pastel que je suis venue à Celtic Colors longtemps passé, quand j'avais été pour la première fois. Pastel parlait du festival, elle parlait de l'ambiance, elle parlait du Cabretan, elle parlait de la réception des tunes du public, elle parlait de Festival Club, puis elle dit « Ah, oh, faut qu'il y aille, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas voir de la musique, tu vas... » elle dit ça va être pas croyable, tu vas voir. Puis j'ai certainement jamé avec elle pas mal à Celtic Colors. J'ai certainement jasé avec elle. C'est vraiment, j'ai vécu ça comme avec Pastel, Emma puis Pascal. Plusieurs fois je suis venue à Celtic Colors. Puis ouais, certainement que le festival puis le Cabretan avait une grande place dans le cœur de Pastel.
Christine, c'est quand la dernière fois que tu as vu ou tu as parlé à Pastel Leblanc?
J'y ai parlé cet hiver. Elle me parlait de comment est-ce qu'elle vivait son cancer, puis jusqu'à la fin, elle avait vraiment encore, ben, jusqu'à presque la fin, je dirais, elle avait encore de l'espoir, puis elle voulait vivre. Elle voulait se battre, elle voulait continuer à être là pour nous autres, à vivre des choses, à faire de la musique, comme c'était vraiment son but. Puis il y a quelques semaines, on a perdu un de nos amis mutuels. Puis Pastel, elle a décidé qu'elle allait faire un petit hommage pour notre ami Henri. Puis elle avait fait un vidéo avec sa sœur Emma des tunes que notre ami Henri aimait. Puis tu sais, comme c'était vraiment ça pour elle, c'était le partage, puis le fait que la musique traditionnelle, c'est accessible à tout le monde, puis que ça se partage bien. Mais oui, Pastel était, elle a été elle-même jusqu'à la fin, puis elle a été généreuse, puis batailleuse jusqu'à la fin. Elle a trouvé de la valeur dans tout le monde, puis de la beauté dans tout le monde. Puis c'est ça que je retiens vraiment comme de Pastel en général.
Christine Melançant, merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci.
On a entendu trois pièces du groupe Wichten, La Belle Gabrielle, Âme Sœur et ici, Horizon.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien oui, c'est la voix de notre journaliste Judy Desalliers qui est en poste avec nous à Fredericton depuis plus d'un an maintenant. Judy qui va nous quitter bientôt, malheureusement pour nous. Elle qui va aussi faire de la peine au réseau des quatre radios avec lesquelles nous travaillons en Atlantique. Bonjour Judy.
Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui.
On est bien content que tu sois restée avec nous tout ce temps. On sait que tu vas quitter bientôt, pas parce que tu nous aimes pas bien sûr,
mais parce que
tu as trouvé une chaussure à ton pied ailleurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler pour l'initiative de journalisme local ces derniers mois?
Bon, ça fait seulement 4 ans que j'habite à Fredericton, donc je connais pas tout. Ça m'a appris à connaître un peu plus sur la scène politique, justement. La scène communautaire, les événements locaux, les personnes. Moi, j'aime ça, connaître les gens, connaître leurs histoires. Donc, c'est ça qui me passionne le plus en étant journaliste, c'est de pouvoir raconter et d'écouter les gens. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui m'a fait découvrir, justement, la communauté avec eux.
Ma grand-mère m'avait dit un jour, j'étais très jeune et je commençais tout juste en journaliste, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie maintenant? Là? Genre, je dis, je suis journaliste. Elle dit, il faut aimer les gens pour être journaliste. J'ai pas osé lui dire non.
faut juste les comprendre, c'est ça.
Alors, tu as passé donc 4 ans au Nouveau-Brunswick. Tu te souviens de tes premières semaines, tes premiers mois là-bas. Comment est-ce que ça s'est passé pour que d'arriver dans une nouvelle province canadienne? Tu avais fait toute ta vie au Québec, on le suppose.
En fait, moi, j'aime ça explorer. Après avoir passé ma vie à Trois-Rivières, j'ai décidé d'aller toute seule en Ontario, à Ottawa, dans une ville majoritairement anglophone. Moi, je parlais presque pas l'anglais, mais j'ai appris à parler l'anglais, j'ai appris à me débrouiller toute seule, à être adulte comme ça. Mais quand je suis déménagée au Nouveau-Brunswick, j'ai découvert une province qui est gentille. C'est comme ça que je peux décrire le Nouveau-Brunswick. Les gens sont gentils, sont accueillants. Les Acadiens, la culture acadienne est incroyable et j'ai découvert de la nouvelle musique, des nouveaux gens, des nouveaux accents. C'est ce que j'aime le plus quand je découvre une nouvelle région, les accents. C'est ce qui me passionne le plus, étrangement, ouais.
Alors, comment c'est d'être francophone ou francophile au Nouveau-Brunswick, peut-être plus particulièrement à Fredericton où tu es?
Oh mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Être francophone à Fredericton, c'est sûr que quand tu te rends dans les magasins à Fredericton, t'entends au moins une personne qui parle en français. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui parle français pendant que je fais mon épicerie, par exemple. Ça me fait sentir plus chez moi, si je peux dire ça. Mais qu'est-ce que ça fait d'être francophone à Fredericton? Je me sens spéciale d'être là. Je me sens pas minoritaire, mais je me sens bien. Je me sens pas mal accueillie si je suis francophone. Je peux dire ça de même.
Quand on est francophone, on n'est pas étranger, finalement, à Fredericton.
Non, du tout. Moi, j'ai été bien accueillie de mon côté. Il y a plein d'associations francophones à Fredericton. J'ai été bien accueillie, surtout au Centre communautaire Sainte-Anne, c'est où est-ce que se trouve la radio CJPN.
Oui.
Il y a une grosse, grosse communauté des associations francophones qui peuvent vraiment te guider où est-ce que tu veux aller, il y a différentes activités aussi. Tu peux te trouver des amis. Donc, c'est très facile de se trouver une communauté francophone à Fredericton.
Oui, c'est clair que la communauté francophone est très active, très présente dans l'univers physique et médiatique du côté de chez toi. Si ce n'est que par les sujets que tu nous produis à chaque semaine, c'est clair qu'il y a de quoi se mettre sous la dent.
Quand j'essaie de trouver quelque chose d'un petit peu plus francophone, je me tourne justement vers les associations du Centre communautaire Sainte-Anne, parce qu'il n'y en a pas juste 2 ou 3, il y en a une dizaine. Alors, je suis bien gâtée là-dessus.
Oui. Alors, qu'est-ce qui t'attend maintenant, Judy? Est-ce que tu restes dans la province? Est-ce que tu vas ailleurs? Tu restes à Fredericton?
Oui, je reste à Fredericton. Je vais être agent des communications au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je vais rester ici au Nouveau-Brunswick. J'ai trouvé ma maison ici.
Oui, vraiment?
Oui, oui. Je pense être là pour une bonne partie de ma vie.
Le Québec te manque pas?
Non.
Hein? Oh, tu as le droit, hein? Tu as le droit.
Ben, ma famille me manque, c'est certain. Ma famille, c'est la seule raison que je retourne au Québec. D'ailleurs, j'y étais en fin de semaine voir ma famille, mais ouais, ma famille, mes amis sont au Québec. C'est la seule chose qui me manque du Québec.
Alors, disons, faisons un peu de Québec bashing, là. Qu'est-ce qui te manque pas du Québec?
Oh mon Dieu, on me met sur le spot. Attends, qu'est-ce qui me manque pas du Québec?
Pourquoi tu préfères? Aimes-tu tant le Nouveau-Brunswick?
Hey, j'y avais jamais vraiment pensé. Mais qu'est-ce qui me manque pas du Québec? C'est, ben, je veux tellement pas mettre les Québécois à dos. La vie est plus relaxe au Nouveau-Brunswick. Je trouve que, ben, comme j'ai dit tantôt, les gens sont plus gentils, sont plus accueillants. Mais la vie est relaxe, on dirait plus relaxe qu'au Québec. Ça, je peux dire ça. Ouais, il y a des bons vivants.
Ouais. Est-ce que la morphologie du paysage a quelque chose à y voir ou pas?
Je crois que oui. J'ai visité plusieurs régions au Nouveau-Brunswick. Pas toutes encore, pas toutes les régions, mais j'apprécie particulièrement la région de Fundy. C'était ensoleillé et c'est bien plus beau quand il y a du soleil. Tu vois les couleurs. Ah, c'est magnifique.
Là où il y a des plus hautes marées?
Oui, effectivement, c'est là. Il y a Hopewell Rocks, que ça s'appelle, des roches qui sont formées par les marées. C'est magnifique. Je vous conseille ça.
Ah, ben écoute, merci du conseil, Judy. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. Ça a été notre première rencontre, en fait, notre première rencontre radiophonique. Tout le meilleur pour la suite de ton parcours professionnel.
Merci beaucoup. À bientôt.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada. Rendez-vous donc sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est aussi branchés sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Puis écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, aussi sur notre site web. On remercie nos journalistes Daniel Aucoin, Pénélope Clermont et Judy Desalliers, et bien sûr leurs invités. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique et à notre coordonnateur national Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI @CanadaLJI.